Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Des symptômes qui varient d'un individu à l'autre, des facteurs génétiques, mais pas de caractère héréditaire. La sclérose en plaques est une pathologie complexe, difficile à diagnostiquer et à annoncer à celles et ceux qui en sont atteints, compte tenu souvent de leur jeunesse, comme du caractère imprévisible de l'évolution de la maladie. Le diagnostic est posé chez des sujets âgés de 30 ans en moyenne, le plus souvent des femmes, 3 femmes touchées pour un homme. Une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central, caractérisée par des atteintes diverses, des poussées d'intensité variable qui se déclarent à des fréquences imprévisibles. Des poussées inflammatoires qui entraînent des lésions plus ou moins réversibles. Et ces crises, les traitements qui au cours des dernières années ont gagné en efficacité, tentent de les espacer, tentent de les atténuer. Les origines de la sclérose en plaques restent encore mal connues. Si les facteurs génétiques sont impliqués, l'hérédité, elle, ne serait pas en cause. Des facteurs environnementaux, également pointés du doigt, avec une géographie particulière de ces cas, une faible prévalence en zone tropicale. En France, 100 000 personnes sont touchées et en dehors des accidents, des traumatismes, eh bien, la sclérose en plaques est aujourd'hui en France la première cause de handicap sévère chez les trentenaires. Journée mondiale de la sclérose en plaques, on en parle avec vous, docteur Caroline Papex, bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Également avec nous en studio, Marine Barnerias, bonjour.
Bonjour Caroline Paré.
Vous êtes atteinte de sclérose en plaques, diagnostic, je vais y arriver, qui a été posé il y a 3 ans. Et vous avez signé un livre témoignage qui s'intitule « Ses pères héros, voyage interdit qui a donné un sens, du sens à ma vie », publié aux éditions J'ai lu. Nous retrouverons tout à l'heure le docteur Salwa Mrabet en ligne de Tunisie. Docteur Mrabet, neurologue, assistante hospitalo-universitaire en neurologie au CHU Razi, la Manouba de Tunis. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe nationale de judo, pour poser vos questions. Notre numéro 33 1 80 82 75 75.
Priorité santé sur RFI.
La sclérose en plaques, rebaptisée SEP par celles et ceux qui y sont confrontés au quotidien. Ces plaques, c'est le nom qu'on donne aux lésions, docteur Caroline Papex. Comment se forment-elles? Ce sont des plaques de quoi exactement?
Alors, ce qu'on appelle les plaques, c'est en fait la cicatrice d'un processus qui prend naissance probablement dans le sang, qui se manifeste par une inflammation. Et cette inflammation va pénétrer dans le système nerveux central pour gagner les gaines, qui sont des gaines de myéline qui protègent les axones, donc les circuits électriques du cerveau. Et cette inflammation va provoquer un bloc de conduction, une dégradation de cette gaine. Puis le processus cicatriciel va entraîner ce qu'on appelle une plaque.
Donc c'est un petit peu comme si le corps était un système électrique et en fait, certains câbles sont détériorés, l'information ne passe plus aussi bien.
Exactement.
Alors, sait-on ce qui détermine justement la localisation de ces lésions, de ces plaques, docteur Papex?
Alors, la distribution de ces lésions semble être liée au hasard. Il n'y a pas de zone élective de cette inflammation. Elle touche l'ensemble du système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, mais également la moelle épinière. Et elle se distribue tout à fait au hasard.
Quand on parle de la sclérose en plaques, à de nombreuses reprises, quand on lit un petit peu une documentation, on voit qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Est-ce que c'est pas particulièrement compliqué, justement, quand on est spécialiste d'une maladie, d'avoir, docteur Caroline Papex, autant d'inconnus, ou au contraire, ça donne espoir pour la recherche, pour ce qui est en train, justement, d'essayer d'être trouvé? Comment on est confronté à ces maladies encore avec une grande part de mystère et d'inconnus?
Alors en effet, il persiste des inconnus concernant cette maladie, puisqu'on n'en connaît pas aujourd'hui la cause. On sait qu'elle est d'origine multifactorielle, c'est-à-dire qu'elle est le produit d'une alchimie entre l'environnement et probablement des facteurs génétiques. Mais vous l'avez précisé en introduction, ce n'est pas une maladie héréditaire. Mais il y a probablement des prédispositions génétiques, notamment dans le système qui code l'immunité et qui rencontre dans l'environnement un élément qui va provoquer le départ de cette maladie. Donc effectivement, la cause aujourd'hui reste inconnue. Bon, cependant, on a quand même identifié un certain nombre d'éléments de cette maladie, notamment on sait que c'est une maladie qui est inflammatoire, on sait que c'est une maladie qui touche la myéline, et on sait que il y a une dégénérescence du neurone. Donc ce sont trois grands axes ensuite qui nous ont permis de développer de la recherche, et cette recherche a abouti à la mise au point de traitements qui préviennent l'évolution de la maladie. Donc il y a certes des inconnus, mais il y a malgré tout des avancées qui ont pu être faites ces dernières années.
Alors on parle de poussée hein, quand on est atteint de sclérose en plaques, poussée qui entraîne des signes, des symptômes. Chez vous, Marine Barnerias, la maladie s'est manifestée brusquement, on peut le dire, par des troubles visuels. Vous aviez seulement 21 ans, c'était en 2015. Comment ça s'est passé? Vous faisiez quoi? Et comment vous avez compris qu'il y avait un problème?
Mais écoutez, déjà, merci, je suis ravie d'être parmi vous pour parler de cette maladie qui est rentrée dans ma vie il y a maintenant 3 ans. Cette maladie, c'est vrai, comme toute maladie, elles nous préviennent pas. Donc elles arrivent du jour au lendemain chez nous, dans notre petit corps. Elles s'immiscent. Dès qu'elles arrivent, justement, notre premier pilier, c'est la peur et la paranoïa. Surtout quand on comprend pas ce mot qui claque, la sclérose en plaques. Ce qui s'est passé, c'est que moi, cette petite maladie m'a ôté la vue. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvée dans une boîte noire. Et là, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'inscrit sur un mur en disant, mais notre vie va être un enfer. Parce que quand on a un mot qui claque et qui est frais comme ça sur, quand on a une étiquette sur notre lit d'hôpital, on a vite tendance à se l'approprier et à devenir cette étiquette. Et c'est vrai que juste permettez-moi de transformer juste ce mot de sclérose en plaques, en tout cas pour ma part, en rosie. Parce que je trouve que c'est quand même plus joli de parler d'une maladie quand on arrive à changer ce mot qui claque et qui est frais.
Vous avez changé de nom, justement, c'est ce que vous racontez dans votre livre « Ses pères héros ». Vous avez rebaptisé votre maladie par un prénom, d'ailleurs un prénom féminin, on peut se poser la question pourquoi. Oui. Vous auriez pu être un homme aussi, ce petit ennemi intérieur, mais finalement c'était un ennemi au départ, et puis vous en êtes fait, on va pas dire une amie, mais une compagne de vie.
Bah c'est vrai que moi ça a été fondamental, parce que vous parliez, docteur, tout à l'heure de hasard, en disant que voilà, cette maladie, c'est un petit peu le hasard de savoir vers où elle va s'immiscer dans notre cerveau. Est-ce qu'elle va nous ôter un membre de notre corps, notre vue ou notre toucher ou notre sensibilité? Et c'est vrai en fait que ce que je remarque aussi à travers cette maladie, c'est qu'il faut réussir, et c'est compliqué, ça met du temps, et je pèse mes mots en disant ça concernant toutes les rosies qui sont atteintes, c'est de réussir aussi à faire confiance en cette pathologie, parce que quand on l'associe comme une ennemie, c'est vrai que c'est là aussi elle prend vie. Notre système nerveux aussi l'explique très bien. C'est quand même les nerfs, c'est quand même les je pars du principe que les poussées ne sont pas forcément que le fruit du hasard, parce que quand on est suscité aussi à beaucoup d'anxiété, à beaucoup de stress, à beaucoup d'angoisse, j'ai pu constater aussi que les maladies de la sclérose en plaques pouvaient être fortement évolutives dans cette manière de concevoir. Et
quand vous dites j'ai constaté, vous avez constaté sur votre propre organisme qu'en période de stress, vous aviez d'autres manifestations,
absolument,
par exemple, que les troubles visuels.
Absolument. En tout cas, moi, et c'est une maladie, encore une fois, comme toute pathologie, très individuelle. Donc, c'est pas du tout un discours universel. Je parle par rapport à ma vision, justement, de Rosie aujourd'hui. J'ai constaté, en tout cas, qu'il y avait eu énormément de changements en fonction de ma vision que je pouvais en avoir et de la cohabitation que je pouvais en avoir. Et je sais que c'est un vrai cheminement, c'est un vrai chemin qui prend du temps et qu'il faut s'accorder ce temps-là. C'est-à-dire qu'on n'évolue pas tous au même moment, à la même vitesse. Mais je pense que la vision que chacun a de sa propre maladie est fondamentale pour pouvoir cohabiter avec elle.
Docteur Caroline Papec, ce facteur de stress, on va parler après des autres lésions que peut entraîner la maladie. Ce facteur de stress, c'est quelque chose qui est reconnu par le corps médical ?
Oui, c'est tout à fait exact que les situations de stress, hein, qu'il s'agisse d'ailleurs de stress positif ou de stress négatif, hein, lorsque les émotions sont fortes, soit à l'occasion d'une dispute par exemple, mais aussi à l'occasion de l'annonce d'une nouvelle joyeuse, ça va stimuler en fait le système nerveux central. Et il est exact de dire que les zones qui ont été affectées par le processus inflammatoire, qui ont conservé une petite cicatrice, vont moins bien fonctionner. Et de ce fait, des symptômes peuvent réapparaître. Et lorsque, effectivement, cette situation de stress disparaît, eh bien, les symptômes disparaissent également. Donc, il y a, en effet, hein, vous en témoignez, mais c'est effectivement le témoignage de beaucoup de patients, les situations de stress favorisent l'émergence des symptômes.
Ces symptômes, on l'a vu avec Marine Barnérias, les yeux qui ont été touchés au départ, justement, ils peuvent atteindre quel autre organe, quelle autre compétence, quelle autre capacité physique ?
Alors, elles peuvent toucher l'ensemble du système nerveux central. Or, le système nerveux central va piloter la motricité, la sensibilité, donc la perception du toucher, mais également le sens de l'équilibre. Dans la vision, il y a effectivement la capacité à voir clairement, mais également une vision qui peut être dédoublée, hein, par trouble de la motricité, hein, des muscles des yeux. Ce sont les principales manifestations de la maladie.
On peut avoir aussi des troubles auditifs dans certains cas.
C'est exceptionnel. Effectivement, il a été décrit, enfin certains patients rapportent qu'il y a des surdités brutales qui s'installent, mais généralement elles sont résolutives. Il est exceptionnel qu'il y ait une surdité au long cours.
Dommage, parce que moi j'entends plus trop bien, je pensais que c'était dû à ma rosie peut-être.
C'est peut-être autre chose.
Peut-être autre chose.
Vous êtes peut-être confrontés à d'autres petits personnages malicieux.
Je voudrais juste dire un mot sur le fait que vous ayez renommé cette maladie. Alors oui, vous avez choisi ce terme-là, mais c'est vrai que la question de la dénomination de cette maladie, c'est une question importante et d'ailleurs même historique, hein, puisque la première description qui a été faite de la maladie était faite par un anatomiste, Cruvelier, et qui avait constaté ces cicatrices intracérébrales. C'est pour ça qu'il l'avait appelée sclérose, c'était le terme qu'on utilisait à l'époque. Et comme elles étaient disposées comme des petits îlots au niveau de la substance blanche, il avait en fait dénommé cette maladie sclérose en île, qui était un peu plus poétique et qui claquait un peu moins.
Mais c'est tellement important, et c'est vrai que docteur, moi c'est quelque chose qui m'importe aussi énormément, et c'est un vrai combat aussi aujourd'hui pour moi par rapport à d'autres pathologies, pas forcément que la sclérose. Les gens qui sont atteints de quelque chose, quand ils sont sur un lit d'hôpital avec cette étiquette, waouh, la blouse blanche, vous avez un tel pouvoir sur nous, un tel pouvoir de d'entraide, de force, de vie. Et je pense que la blouse blanche, vous êtes vraiment un vrai pilier pour nous patients. Et c'est vrai que d'avoir justement des docteurs qui encouragent d'individualiser, de personnaliser une maladie, c'est tellement encourageant parce qu'on se sent plus dans un océan. On se sent plus dans un océan avec 1 milliard de sclérose en plaques. Et La difficulté quand on est atteint d'une maladie, quelle qu'elle soit, c'est la comparaison. C'est la pire des choses. Et je pense que vous pouvez le constater aussi avec tous les patients que vous voyez. Moi, la première question que je disais à mon neurologue, c'était: est-ce que je vais finir comme lui? Ou est-ce que ça va être comme ça? Et en fait, ce que j'ai compris au fur et à mesure, parce que ça prend du temps aussi, et puis j'apprends encore tous les jours, chaque jour, c'était de me dire: Marine, essaye de individualiser, de te l'approprier. Et quand on se l'approprie, j'ai remarqué, pas forcément qu'avec mon aventure, mais avec beaucoup d'autres aventures de patients, à quel point ça faisait faire fleurir beaucoup de projets et d'idées différents.
Parce qu'en même temps, Marine Barnérias, vous ne voulez pas vous comparer aux autres, mais c'est aussi important d'entendre les témoignages des autres.
Complètement, je m'en nourris, c'est une vraie nourriture, c'est pas du tout un rejet. C'est très très important pour moi d'avoir les témoignages d'autrui, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Mais je pense que ce qui est difficile, surtout dans notre société, c'est de vivre constamment dans la comparaison via les réseaux sociaux, via toutes les plateformes, les forums, etc. Et qu'on parle de sclérose en plaques ou qu'on parle même d'une maladie, même d'un panari. Quand on a un panari et qu'on va sur les réseaux sociaux, excusez-moi, mais on a l'impression qu'on va perdre notre pouce demain. Et c'est vrai que c'est très important de réussir à soit se lier vraiment avec le corps médical et avec notre entourage pour vraiment se l'approprier et réussir à créer son propre chemin.
Et éviter ces réflexes justement d'aller voir des choses qui ne sont pas forcément fiables. Docteur Caroline Papex, est-ce qu'il y a moyen de savoir, quand quelqu'un vient avec certains de ces symptômes dont on a parlé tout à l'heure, de savoir depuis combien de temps la maladie est là? Comment est-ce qu'on peut le savoir?
Alors, c'est vrai que par principe, en médecine, on parle de maladie à partir du moment où il y a eu un symptôme qui a été ressenti par la personne qui vient nous consulter. C'est la base même hein, de la définition de la maladie. Mais on sait aussi, grâce aux avancées des 20 dernières années, et notamment grâce au développement de l'imagerie cérébrale, que certaines personnes ont des lésions, qui sont évidemment des lésions de sclérose en plaques, bien qu'ils n'aient jamais éprouvé de symptômes. Et là, il y a une difficulté à savoir comment nommer hein, cette situation qui est très particulière puisqu'on est dans du pré-diagnostic, du pré-symptôme.
Comme une maladie dormante. D'ailleurs, en neurologie, on a aussi les malades atteints de la maladie de Parkinson, souvent qui ont des signes. Mais ensuite, on découvre que la maladie, elle était là depuis bien plus longtemps. Il y avait d'autres signes, mais ils n'avaient pas forcément la capacité de les interpréter.
Tout à fait, c'est exact. Il y a parfois aussi des symptômes au cours de la maladie, de la sclérose en plaques, qui sont un peu négligés parce que c'est des symptômes d'une grande banalité.
Comme par exemple, fourmillements.
Alors les fourmillements, qui n'a pas fait l'expérience dans son existence de fourmillements quand on croise les jambes ou quand on a une sciatique. Enfin, il y a plein de situations où on peut faire l'expérience de fourmillements. Il y a aussi la situation particulière des troubles urinaires qui peuvent survenir après un accouchement et qui sont mis sur le compte de cet accouchement, mais qui peuvent en fait être des premiers symptômes de la maladie, des vertiges. Donc on estime quand un patient vient consulter pour la première fois pour des symptômes qui ont motiver la consultation, que en reprenant en fait des données anciennes, 30% d'entre eux en fait ont déjà eu par le passé des symptômes qu'on pourrait mettre sur le compte de la maladie.
Et est-ce que précisément ce facteur temps est important pour la prise en charge, docteur Papex? Est-ce que plus la maladie est prise en charge tôt, mieux on peut contrôler son évolution?
Alors, c'est une question difficile. Oui. Il y a effectivement des données de recherche clinique qui ont montré notamment dans l'utilisation des médicaments préventifs des rechutes, que traiter précocement était plus efficace que traiter plus tardivement. Il faut aussi, pour interpréter ces résultats, savoir que l'inflammation est plus importante en début de maladie qu'au cours plus tard, dans les 10 ans qui vont suivre.
Il y a des poussées très fortes.
Il y a des poussées fréquentes et plus fortes, puisque le système immunitaire à ce moment-là est très actif, et donc de ce fait, agir par des traitements qui préviennent les poussées ont une efficacité supérieure puisqu'ils ont à lutter contre une inflammation plus importante.
Mais juste permettez-moi juste de rebondir sur ça, parce que c'est un sujet aussi qui est très intéressant au niveau de la diversité aussi de si je peux me permettre de toutes les rosies qui existent. Il y a différentes cas de figure dans le sens où il y a des gens qui vont avoir une évolution très 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 forte et ensuite complètement se stabiliser et plus jamais rien avoir toute leur vie, comme inversement. Et en fait, c'est vrai que c'est assez compliqué de mettre une étiquette sur ces évolutions et sur ces traitements, puisque il n'y a pas une seule rose qui peut se ressembler, comme il n'y a pas un seul individu qui peut se ressembler. Donc je pense, même pour ça, je sais même pas si on pourra avoir, même au niveau de la science, si la science pourra avoir une réponse même dans 10 ans, parce que je pense que c'est quand même le propre, enfin on a quand même, ce qui est intéressant, c'est que l'homme a une richesse intérieure aussi exceptionnelle, et je pense qu'on pourra jamais être aussi intelligent que notre cerveau.
Alors sur cette singularité justement, je vous propose d'écouter la bande-son de la vidéo lauréate du concours de l'UNICEF, hein, Union pour la lutte contre la sclérose en plaques, qui a lancé ce concours de sensibilisation, prix du grand jury qui a récompensé le travail d'un duo, Vincent Teffen et Thomas Coury. À l'écran, puisqu'on n'a pas l'image, on voit des jeunes, silhouettes éclairées, fond noir, et des images projetées sur leur visage.
Il y a des fois, je peux parler avec quelqu'un, et puis d'un coup, j'arrive plus à articuler. Je mâche mes mots. Avec des inconnus, ça peut être très gênant.
Parfois, j'ai un muscle qui se contracte, voire plusieurs muscles, en voiture, au restaurant, et je pense qu'un jour, ça pourrait être dangereux.
Je peux aller très bien, et du jour au lendemain, j'ai plus d'espoir, j'ai plus envie de rien, et j'ai plus envie de voir personne.
Moi, je fais du skate, et parfois, en skate, ma vision, elle devient complètement trouble. Je suis prêt à sauter des marches, et je sais que je peux me faire vachement mal et avoir des accidents super dangereux.
C'est un peu compliqué d'en parler, mais l'incontinence, c'est un vrai problème. Je me sens jamais tranquille, ça peut arriver n'importe quand, n'importe où.
C'est assez indescriptible, j'ai la tête qui tourne, j'ai l'impression d'être comme dans un manège. Et parfois, je suis obligée de me tenir au mur.
En fait, T'as beau y mettre beaucoup de désir, des fois c'est quasi impossible quoi. Et au quotidien, dans la vie de couple, c'est franchement frustrant.
Ça peut me brûler dans un bras, des fois dans une jambe, parfois c'est tout le corps. C'est vraiment pas facile à vivre.
Parole qui atteste de la diversité des symptômes, des retentissements sur le quotidien de ces patients. En ligne avec nous, Carole de Mulatier, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes la directrice de l'Union pour la lutte contre la sclérose en plaques. Pourquoi ce concours et pourquoi avoir choisi précisément ce clip vidéo dans cette catégorie prix du jury ?
Alors, ce concours est déjà intéressant parce qu'il permet de faire parler de la sclérose en plaques et d'intéresser un large public pendant toute la durée du concours, c'est-à-dire là, il a duré 4 mois de janvier à avril. Donc, on a eu des professionnels ou des, disons, des créatifs, des étudiants en école de création cinéma. Et on a eu, à côté de ça, des témoignages de familles, de personnes touchées. Ouais, donc, c'était un large panel qui était concerné par ce concours. Et on avait effectivement le grand jury, le jury de professionnels des médias et le jury des associations.
Et quel message vous voulez faire passer, Carole de Mulatier, à travers ce concours ?
C'est déjà faire parler de la maladie différemment dans les familles concernées. Ça permet de se réunir autour de la sclérose en plaques, mais d'une autre façon, pas avec les médicaments, pas avec les médecins ou les hôpitaux. On parle de la maladie en famille, mais différemment. Et puis les jeunes aiment beaucoup, parce que c'est une maladie de jeunes, aiment beaucoup aussi participer à ces concours, c'est via le smartphone. Donc voilà, ça intéresse beaucoup les jeunes et c'est une façon de parler de leur maladie d'une façon plus sympathique.
Justement, est-ce que c'est facile de communiquer, de sensibiliser le public sur cette maladie qui n'est pas simple à expliquer et qui atteint une frange de la population particulièrement sensible, encore une fois, compte tenu de sa jeunesse ?
C'est difficile, voilà, de communiquer sur cette maladie. Comme vous dites, elle est complexe, elle est variable, elle est imprévisible, elle peut être réversible. Donc, pour le public qui ne la connaît pas, ils comprennent, enfin, pas toujours, ils se disent, mais est-ce que c'est vraiment sérieux ou est-ce que c'est léger comme maladie? Et ce qu'il faut savoir, c'est que la maladie soit visible ou non, qu'il y ait un handicap ou non, elle est toujours extrêmement lourde à porter. Une jeune personne qui a un diagnostic sclérose en plaques, de toute façon, il ne sait pas dans quelle évolution il sera, même si maintenant, effectivement, on va peut-être un peu arriver à mieux prévoir les évolutions, mais là, je laisse les neurologues parler. Mais c'est lourd à porter, effectivement, puisqu'on ne sait pas de quoi demain est fait.
Merci beaucoup, Carole de Mulatier, directrice de l'UNICEP, Union pour la lutte contre la sclérose en plaques. On entend les phrases, les émotions de ces jeunes personnes sur ce clip vidéo. Vous, c'est une vraie tranche de vie dans votre livre, Marine Barnérias. On vous retrouve en studio. Ce livre, c'est Père Héros, carnet de voyage intérieur. Au début, quand on lit, on voit initiation, découverte, et puis on comprend au fil des pages, c'est pas une initiation, c'est une réconciliation.
Oui, permettez-moi juste de m'adresser à toutes les personnes qu'on vient d'entendre, où on perçoit une vraie souffrance, on perçoit une vraie anxiété de l'avenir, une vraie anxiété de vivre avec. Une vraie souffrance et une vraie incompréhension de comment on va pouvoir se relever avec cette maladie. Je vais m'adresser à eux parce que je pense que en ce jour de la fête de Rosie, entre guillemets, j'aimerais m'adresser à vous en vous disant que certes, on sait pas ce qui est fait de demain. Certes, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on a deux choix, on a deux possibilités. Soit on pense au futur en étant dans une peur constante et en ayant peur et en vivant, en entretenant cette anxiété de jamais savoir vers quel pied on va pouvoir marcher. Soit on se dit, allez, on va inverser le regard. On va pas regarder le regard vers l'avenir, mais on va regarder le regard vers maintenant, aujourd'hui. Et aujourd'hui, même si on a des poussées, même si on a des paralysies, même si notre corps nous lâche, j'ai juste envie de vous envoyer pour notre anniversaire la volonté de jamais vous arrêter de croire en vous. Parce que même si vous avez un intrus qui s'y mise dans votre vie, vous avez des passions, vous avez des envies, vous avez des choses qui vous ont toujours animé, et les lâchez pas. C'est pas parce qu'il y a un intrus qui arrive qui va devoir vous anéantir votre vie. Et ça, c'est vraiment un message que j'ai envie de vous envoyer. Si vous aimez peindre, si vous aimez écouter de la musique, si vous aimez jouer d'un instrument de musique, faites-le et vous arrêtez jamais d'entretenir vos passions parce que c'est vraiment elle la solution. Et j'en suis convaincue. Je sais que c'est pas facile et je vous envoie juste plein d'espoir et de confiance avec cette Rosie qui est loin d'être facile à gérer avec toutes ces épines qu'elle peut avoir. Mais quand on arrive à l'observer un tout petit peu, et c'est compliqué, ça prend du temps, mais on voit beaucoup plus les pétales que les épines. Donc,
vous ne voulez pas vous laisser abattre, vous ne vous laissez pas abattre, vous êtes militante intérieure, justement, de cette acceptation de la maladie, mais vous comprenez bien qu'il faut pouvoir se reposer sur un entourage.
Absolument.
Et aussi sur une forme de santé, parce que quand elle vous, on peut dire pour certaines personnes, elle vous fauche, elle vous fait mal au quotidien dans votre corps, il faut aussi pouvoir lutter contre cette douleur au quotidien. Docteur Caroline Papex, comment on fait justement pour soulager les patients chez qui justement la sclérose en plaques fait mal?
Alors, lorsqu'on bénéficie de traitements qui ciblent la douleur, mais je voudrais revenir effectivement sur le choix qui a été fait par le jury de l'UNICEF de sélectionner ce petit court-métrage. Ce que je trouve intéressant dans les témoignages qui sont diffusés, c'est qu'ils font part de ce handicap invisible. Lorsqu'on parle de la sclérose en plaques, une des premières images qui vient à l'esprit des personnes, c'est le handicap moteur.
On imagine par exemple des béquilles ou un fauteuil.
Exactement. Ce
n'est pas la réalité forcément.
Et en fait, ça ne correspond pas à la pleine réalité. Une partie du handicap est telle que les personnes viennent d'en témoigner, des petites choses invisibles, mais qui peuvent avoir un impact très important sur la vie sociale.
Par exemple, les troubles érectiles.
Les troubles érectiles, les troubles urinaires, qui obligent à aller rapidement aux toilettes, sans parler forcément d'incontinence. Le simple fait d'aller aux toilettes 20 fois par jour...
L'impact social de tous ces
troubles. A un impact social important. Et donc, c'est la difficulté de cette maladie, c'est qu'elle a effectivement, elle est faite
de plein
de symptômes qui ne sont pas forcément visibles et qui peuvent effectivement entraîner à la fois de l'anxiété mais également des difficultés dans la vie sociale.
Docteur Caroline Papex, on va dans quelques instants prendre en ligne une neurologue en Tunisie, mais d'abord je voudrais que vous me parliez juste des traitements. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme protocole, qu'est-ce qu'on a comme thérapeutique pour justement atténuer les poussées de sclérose en plaques, les espacer et soulager les patients?
Pour répondre à votre question, je vais revenir un peu sur les premiers éléments que nous avons développés en début d'émission, et en particulier en physiopathologie, on a identifié trois phénomènes de l'inflammation, de la déminisation et de la neurodégénérescence. Et ces trois pieds, en fait, ont constitué trois axes de recherche pour le développement des thérapeutiques. Aujourd'hui, on dispose de traitements qui préviennent de l'inflammation, et ce sont les traitements qui sont actuellement disponible pour les patients depuis une vingtaine d'années. Évidemment, depuis 20 ans, il y a eu des progrès. Les modalités d'administration ont changé. On est passé de traitements injectables à des traitements par voie orale ou par voie intraveineuse.
Je vous coupe juste parce qu'avant, en gros, on avait les corticoïdes et pas grand-chose d'autre. C'est bien ça?
C'est exact.
Et maintenant, ça a changé. On a d'autres thérapeutiques qui ciblent l'immunité.
Exactement. Et cette immunité, elle est modulée, supprimée, modifiée, et elle va permettre d'éviter la survenue des poussées. Donc aujourd'hui, on dispose d'un certain nombre de traitements, une dizaine de traitements sont aujourd'hui disponibles, leur efficacité est de plus en plus importante. Donc ça, ce sont les médicaments dont les patients peuvent bénéficier dès aujourd'hui. Puis il y a d'autres axes de recherche, c'est bien sûr, une fois qu'une démyélinisation a eu lieu, favoriser la remyélinisation. Donc il y a des essais qui sont menés évidemment en recherche fondamentale chez l'animal, mais aussi des essais qui sont en cours de développement chez l'homme, et pour lequel on attend des résultats, en tout cas qu'on espère favorables. Et puis enfin un troisième axe, mais qui aujourd'hui appartient davantage à la recherche fondamentale, qui est l'étude de l'axone à proprement parler.
Ce câble neurologique.
Ce câble neurologique.
On va vous retrouver tout de suite, on va partir pour la Tunisie.
Priorité santé sur RFI.
Nous sommes en ligne avec le docteur Salwa Mrabed, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes neurologue assistante hospitalo-universitaire en neurologie au CHU Razi, à la Manouba de Tunis. Docteur Mrabet, est-ce que le Maghreb est touché par la sclérose en plaques? Est-ce que cette maladie est connue du public chez vous en Tunisie?
Donc pour la première question, oui, la sclérose en plaques touche le Maghreb. On est passé d'une zone où on disait que la prévalence était faible à une zone où la prévalence est actuellement dite moyenne. Donc on a en Tunisie environ 5000 patients et on voit cette fréquence de la maladie augmenter avec le temps. Donc, et certainement avec l'association de plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela.
C'est quoi? C'est un meilleur dépistage? La maladie est mieux connue? Ou peut-être des facteurs environnementaux qui font que le nombre de malades augmente?
Je pense que c'est les deux. Donc, il y a une sensibilisation plus claire chez les patients déjà, dans la population générale et chez les médecins de première ligne, de deuxième ligne, qui nous orientent, donc les patients, qui nous envoient les patients pour décider est-ce que c'est une sclérose en plaques ou c'est pas une sclérose en plaques. Donc je pense que c'est les deux.
Avec des moyens justement poser ce diagnostic, quel est le parcours en général d'un patient? Vous parliez tout à l'heure du généraliste pour arriver jusqu'à chez vous, hôpital, service neurologique et avoir ce diagnostic.
Donc déjà le patient qui a le symptôme, il s'adresse au médecin de famille ou au médecin généraliste donc de proximité. Et quand on a une suspicion de cette maladie, le patient est adressé à un service spécialisé en neurologie. Il est pris en charge par un neurologue. Le diagnostic est discuté, puis posé et on passe au traitement.
Tout à l'heure, avec le docteur Caroline Papex, on a parlé justement des différents traitements, différents protocoles. Est-ce que, docteur Salwa Mrabet, ils sont accessibles en Tunisie?
Oui, on a les traitements de première ligne, donc immunomodulateurs qui sont accessibles. On a aussi les traitements de deuxième ligne. Donc, c'est des traitements qui peuvent être fournis pour les patients qui ont une sécurité sociale. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Et qui nous permettent de gérer au moins la maladie dans les premières étapes.
Alors, est-ce qu'il y a des difficultés particulières de prise en charge? Est-ce que, par exemple, on va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure, est-ce que les patients peuvent s'appuyer sur plusieurs disciplines, avec de la kinésithérapie, avec, pourquoi pas, une approche aussi psychologique?
Oui, certainement, puisque la maladie est caractérisée par une diversité de symptômes. La prise en charge de la sclérose en plaques partout dans le monde est multidisciplinaire. Donc ici, dans notre contexte maghrébin, dans mon quotidien, on peut s'aider des psychiatres, des médecins physiques, donc des urologues. Donc selon la demande, la plainte du patient, on a des médecins avec qui on collabore, des médecins à proximité et on peut orienter le patient selon la plainte et selon le besoin.
Merci beaucoup docteur Salwa Mrabet. Je rappelle que vous êtes neurologue, assistante hospitalo-universitaire en neurologie au CHU Razi, la Manouba de Tunis. Je posais cette question, docteur Caroline Papex, sur est-ce qu'il y a beaucoup de cas dans le Maghreb, parce qu'il y a certaines régions du monde qui sont beaucoup moins concernées que d'autres par la sclérose en plaques. Et là, c'est aussi l'une des parts assez mystérieuses de la maladie.
Oui, en effet, comme vous le précisiez d'ailleurs en début d'émission, c'est une maladie dont la prévalence varie en fonction de la latitude, puisque plus on se rapproche des pôles, plus la prévalence de la maladie est élevée. Ceci peut être lié à des facteurs environnementaux, qui sont le taux d'ensoleillement, bien sûr, qui varie en fonction de la proximité des pôles d'une région à l'autre du monde.
Et pourtant, on dit aux personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques, évitez les fortes chaleurs. Et pourtant, les personnes qui sont dans des zones où il fait très chaud, eh bien, en général, sont moins touchées par la sclérose en plaques. Des fois, on a un petit peu du mal à comprendre quand même.
Oui, en effet. Alors, il faut apporter quelques précisions. Le taux d'ensoleillement, c'est donc la luminosité. Hein, la luminosité va apporter notamment de la vitamine D qui va permettre d'agir au niveau du système immunitaire. Donc le taux d'ensoleillement est une façon de parler de cette lumière. La chaleur est un autre aspect hein, de l'ensoleillement. La chaleur en elle-même ne va pas être responsable de pousser ou ni déclencher d'ailleurs la maladie, mais simplement chez les patients qui ont des cicatrices de lésions de la sclérose en plaques, l'exposition à la chaleur va fragiliser le signal nerveux et donc les symptômes anciens vont reparaître de la même manière qu'on avait décrit ça pour les fortes émotions. Donc parfois, lorsqu'on est exposé à une grande chaleur et que les symptômes reparaissent, le simple fait de boire un verre d'eau très frais ou de se plonger dans de l'eau fraîche peut faire disparaître les symptômes.
C'est donc, vraiment de la mécanique là.
C'est de la mécanique. Hein. Donc le soleil donne de la lumière et produit de la chaleur, hein, mais ce sont deux aspects différents.
On a abordé cet aspect multidisciplinaire, pluridisciplinaire de la prise en charge, docteur Caroline Papex. Est-ce que c'est quelque chose de primordial aujourd'hui dans justement les soins pour les patients atteints de sclérose en plaques ?
Oui, ça c'est effectivement primordial. Comme on l'a précisé, les symptômes sont très variés d'un individu à l'autre et justifient l'intervention de différents spécialistes. Sur le plan médical, le neurologue va diriger le traitement, va également essayer de coordonner cette prise en charge. Mais l'ophtalmologiste peut intervenir lorsqu'il existe des troubles visuels. Le médecin rééducateur va travailler également en étroite collaboration avec le neurologue pour favoriser la rééducation, pour prendre en charge des douleurs de spasticité, peut être amené à injecter notamment de la toxine botulique pour assouplir le membre. Les urologues vont également être impliqués dans la prise en charge de la maladie pour traiter les troubles vésico-sphinctériens, à la fois les troubles érectiles, mais également les troubles de la continence urinaire ou fécale. Donc on voit déjà que sur le plan médical, on a besoin d'être plusieurs pour soutenir le patient et pour l'aider dans la prise en charge de ces symptômes, mais il y a également besoin d'un soutien d'une assistante sociale dans certaines situations, de psychologues ou de neuropsychologues qui nous aident et qui aident les patients.
Là, c'est le tableau idéal. Vous dites on a besoin. Dans les faits, dans différentes régions, on va parler de la France là pour cette émission, est-ce que les gens ont vraiment accès à ce potentiel pluridisciplinaire ou est-ce qu'ils doivent aller faire leur marché chez un spécialiste, dans un service, prendre rendez-vous? On sait que c'est très compliqué, c'est d'autant plus compliqué quand on est malade.
Bien sûr. Alors, il y a eu un gros travail collectif qui a été fait en France de la part des neurologues pour mettre en place des réseaux qui permettent à partir de centres de référence qui sont situés effectivement dans des grandes villes de dresser un maillage de prise en charge des patients hein, au-delà de ces grandes villes dans le cadre de réseaux de soins. Donc aujourd'hui, en France, je pense pouvoir affirmer que ce maillage est de bonne qualité et que, quel que soit l'endroit où on se trouve en France, on peut être pris en charge de façon équitable par différents spécialistes.
Différentes spécialités, aussi différentes approches de vie, hein, Marine Barnérias, c'est ce qu'on voit dans votre livre. Les médecins, c'est très bien, c'est indispensable, mais il peut y avoir aussi d'autres ressources que vous êtes allé chercher très loin de chez vous, pour parler de la Birmanie, cette méditation qui, à vous lire, vous a beaucoup aidé. C'était quoi cette recherche intérieure pour domestiquer votre Rosie?
Oui, voilà, ce livre que j'ai écrit, C'est Père Héros, justement, c'était aussi une volonté de montrer qu'on avait aussi énormément de ressources intérieures et qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient possibles et qu'on ignorait. On ignore beaucoup de ce qu'on est capable de transformer et de faire. Et je reviens sur ce que vous disiez, docteur, par rapport à l'accompagnement scientifique et thérapeutique. Mais il y a aussi un accompagnement, pour moi, qui est primordial et qui m'a accompagnée, en fait, depuis le premier jour. C'est en tout cas mon entourage proche, très proche. Ma famille, mes amis, mon compagnon, toutes ces personnes-là qui m'entourent ont été un vrai facteur aussi d'accompagnement et de transformation de cette maladie. Et je pense qu'il y a aussi tous ces aidants-là à qui je m'adresse aujourd'hui, parce que ces aidants-là, eux, ne sont pas forcément malades, mais ont aussi un vrai fardeau au-dessus de leur tête, parce qu'il y a une vraie culpabilité. Pourquoi
moi et pas eux. Il y a une vraie force de vie qu'ils ont, et sans eux, j'aurais jamais rien fait. Et je pense que beaucoup de patients sont aussi très bien accompagnés. Et donc voilà, je tiens à remercier en ce jour aussi tous les accompagnants qui encouragent, parce que sans eux, on n'avancerait pas du tout. Et cette aventure qui a littéralement transformé ma vision de la maladie, elle est venue simplement d'une réflexion banale, en me disant un beau matin, j'ai une multitude d'informations, comme on a pu très bien l'expliquer tout à l'heure, où j'avais des médecins qui me proposaient aussi des changements alimentaires. J'ai eu des conseils au niveau de l'ensoleillement aussi. J'avais plein de possibilités de changement de vie. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais ces changements de vie, je n'arrive pas à m'identifier à ça. Je sais plus où est ma place. Et donc, j'ai essayé juste d'inverser les choses. Au lieu de placer la science en premier, je me suis dit, je vais juste placer ce que je ressens en premier et la science arrivera juste après. C'est-à-dire que je ne dissocie rien, mais j'essaye de placer l'humain avant la blouse blanche. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de me retrouver, de me recentrer à travers un voyage. Donc, on n'est pas du tout obligé de faire un voyage, on n'est pas du tout obligé de partir à l'autre bout du monde. Mais je me suis dit juste, qui tu es, tout simplement? Qu'est-ce qui t'anime dans la vie? D'où viens-tu? Qui tu es? Et donc, je suis partie découvrir mon corps qui était en train de me lâcher, mon esprit qui était complètement indomptable avec cette maladie qui venait d'arriver, où j'étais dans la paranoïa constante, pardon. Et ensuite, mon âme. Ça a été mon petit voyage intérieur. Et à la suite de ce voyage, je me sentais beaucoup mieux, entre guillemets, dans mon corps, dans mon esprit et dans l'intégralité de mon être. Et ce qui m'a permis après de vraiment cohabiter aussi avec la science et d'être beaucoup plus proche de mon neurologue, alors qu'avant j'étais plus dans la combativité avec lui. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin au niveau des patients de pouvoir vraiment se sentir en phase avec la médecine et en phase avec la relation avec leur médecin. Et en tout cas, moi, beaucoup de patients que j'ai rencontrés avaient été en quête de cette corrélation scientifique et psychologique. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, cette petite plume d'enfant à travers le livre « Ses pères héros », c'est de montrer que la corrélation scientifique et psychologique est complètement possible, et on est en chemin vers cette solution, parce que je pense que l'annonce d'une maladie a aussi énormément évolué. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, les neurologues se rendent compte qu'il y a un vrai besoin psychologique à avoir avec les patients.
Docteur Caroline Papex, vous soignez des gens depuis un certain nombre d'années. Certains de ces jeunes, à qui vous avez même peut-être annoncé la maladie, vous les suivez, vous voyez leur vie aujourd'hui. Ces relations, c'est assez spécial de suivre sur le long terme quelqu'un. Et on le disait au départ, une maladie dont l'évolution peut réserver des surprises, bonnes comme mauvaises.
Oui, c'est un parcours commun en fait qui est mené sur le long terme. Il y a une alliance thérapeutique en fait qui se forme. Le sujet principal, bien sûr, c'est la maladie, les moyens d'y faire face, comment la traiter, comment la prévenir. Mais les personnes qui souffrent de sclérose en plaques ne vont pas toujours mal. Ils peuvent avoir de périodes assez longues où ils vont très bien. Et à ce moment-là, des projets de vie personnelle se déroule bien ou moins bien parfois, enfin la vie reprend le dessus, et effectivement c'est tout ce temps qu'on partage entre le patient et le médecin, et qui font de cette relation une relation très riche et de longue durée.
Alors il y a deux mots qui reviennent, ce sera le mot de la fin, deux mots qui reviennent dans votre livre: sourire, larmes, beaucoup de rencontres, d'échanges. Marine Barnérias, vous êtes rentrée. Est-ce que vous continuez à échapper au stress et à cultiver cette réconciliation?
Mais écoutez, je pense que, comme l'amour, jamais rien n'est acquis. Je pense que
ça peut être acquis, mais c'est pas pour toujours forcément.
Non, je pense que voilà, dans la vie, il y a aucune connaissance, aucune compétence n'est jamais acquise, et je pense que la science aussi en témoigne du fait que voilà, on est en perpétuelle évolution, que notre corps évolue, que nos atomes se transforment avec tout notre environnement. Donc moi, c'est vrai, depuis que je suis rentrée, j'ai rien appris à travers cette aventure. J'ai juste découvert des petites graines à travers ce corps qui s'exprime, parce que pour moi, rien n'arrive par hasard. C'est très dur à dire, mais rien n'arrive par hasard, et tout a raison d'exister. Et donc je pense que ces petites graines que j'ai découvertes à travers ce voyage, j'essaye de les entretenir dans ma vie de tous les jours à Paris, avec les différentes activités que je suis en train de développer. C'est un vrai travail, c'est un vrai combat de tous les jours, d'essayer de gérer mon stress, pardon, mais surtout de rester à l'écoute par rapport à ce qu'on ressent. C'est une maladie qui enlève les sensations. C'est une maladie qui est justement nous ôte toutes nos sensations corporelles et j'essaye chaque jour de continuer à écouter ce que ma petite voix intérieure me dit parce que je pense que c'est elle qui a toujours raison.
Merci beaucoup à vous deux d'être venus dans le studio de Priorité Santé hein, à l'occasion de cette journée mondiale de la sclérose en plaques. Merci à vous Marine Barnérias.
Merci docteur et merci à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, merci. Carnet de voyage, un carnet de vie en quelque sorte, C'est Père et Rose, édition J'ai lu. Et à vous docteur Caroline Papex, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris également à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. On parle tout de suite dans Priorité Santé des bienfaits du sport et de l'activité physique sur la santé. C'est bien sûr en votre compagnie, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Aujourd'hui, vous intéressez à un sport traditionnel chinois, c'est le Qigong. Déjà, je l'ai bien prononcé.
Absolument Caroline. Alors le Qigong, c'est une tradition millénaire hein, en Chine. C'est une des cinq branches de la médecine traditionnelle chinoise. Alors il se définit comme une gymnastique de l'énergie qui associe des mouvements lents, des postures statiques et des massages. Alors l'objectif en fait, c'est d'harmoniser le corps et l'esprit. Alors ça se fait par méditation, des exercices respiratoires et des mouvements lents et fluides. Alors tout cela a pour but de mieux prendre conscience de son corps, de lutter contre le stress et la morosité, et puis de retrouver plus de tonus et de calme intérieur. Alors, les principes de base, c'est d'avoir une harmonie du geste et de la respiration par des mouvements circulaires progressifs. La respiration, elle se travaille en profondeur, hein, avec une régularité, et elle doit être abdominale. Et puis, il doit y avoir une concentration de l'esprit afin d'améliorer son développement spirituel.
Est-ce que c'est cela qu'on voit, docteur Jean-Marc Sen, dans les jardins publics en Chine, quand on voit toutes ces personnes, d'ailleurs pas mal de personnes âgées qui pratiquent tous ces gestes ensemble?
C'est exactement ça. C'est une activité qui doit se faire en fait quotidiennement. On dit que c'est une activité qui est énergétique. Alors souvent, ça se fait avec un professeur qui prend toujours des renseignements sur la santé et la condition physique de ses élèves. Quelquefois, s'il est formé en médecine chinoise, il peut faire une véritable consultation d'ailleurs. Et puis, il va enseigner des postures traditionnelles, des figures choisies selon son style. Et puis, on doit être habillé d'une tenue large et confortable, vous savez, avec ses chaussures plates. Et puis, le pratiquer quotidiennement, justement, comme dans ses jardins publics. Et à défaut d'une pratique régulière, au moins le faire 2 à 3 fois par semaine. Le déroulement ensuite du cours se fait avec une initiation basse de pratique et puis avec des cours qui durent 20 minutes à 45 minutes. Il y existe plusieurs formes, des formes dynamiques, plutôt statiques, d'autres méditatives, mais chacune de ces formes agissent à la fois sur le corps et l'esprit.
Alors, quelles sont les vertus du Qigong?
Bon, il y a des applications médicales qui sont multiples. Alors, évidemment, c'est la prévention tout d'abord. On sait que ça permet d'entretenir sa santé, d'améliorer sa qualité de vie. Puis, ça développe aussi l'état des muscles, la force musculaire, l'équilibre. Ça développe également la force du squelette. On a démontré que, par exemple, dans certains troubles métaboliques, ça avait un effet positif. On pense notamment au diabète. Ça améliore également la concentration, ça gère également mieux le stress. En fait, le Qigong est une véritable cure de jouvence qui améliore la confiance en soi et permet de s'acheminer vers une forme d'épanouissement personnel.
Merci beaucoup, c'est tout ce qu'on vous souhaite, docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ah, c'est tout, Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu et avec nous aujourd'hui Victor Hull. Demain, arrêtez de fumer à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, c'est possible. Vos témoignages, vos questions et notre numéro, le 33 84 22 75 75. Et notre émission, vous pouvez bien sûr la réécouter, rfi.fr, rubrique émission. On se retrouve demain.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.